Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on souffle des bougies, une centaine même, pour analyser la trajectoire du groupe Walt Disney qui s'apprête à fêter dans quelques jours un siècle d'innovation, un siècle aussi de tensions, de diversification risquée et de folles acquisitions, une épopée faite de hauts et de bas, telle une montagne russe que l'on peut retrouver dans les parcs d'attractions qui ont fait sa renommée. Qui était donc Walt Disney, le créateur d'un Mickey Mouse qui s'imposera dans les années 30? Comment la firme a-t-elle embrassé les révolutions de l'époque, du son à la couleur? Comment s'est-elle par la suite imposée grâce à la 3D et l'animation? Une multinationale qui a toujours cultivé le goût de la magie, de la féerie, mais qui peine à exister dans l'univers impitoyable du streaming où Netflix le fait vite déchanter. Quelle perspective pour l'offre de Disney+, bien affaiblie par la chute du trafic post-pandémie? Et si Disney était finalement un géant de la tech méconnu, qu'en est-il de sa place dans la conquête de l'intelligence artificielle, un tournant technologique qui inquiète bon nombre d'auteurs et scénaristes qui sortent à peine d'une grève éprouvante. Beaucoup de questions et trois invités à la baguette pour y répondre. Capucine Cousin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique et autrice de Netflix, Amazon, Disney et compagnie, La bataille des nouveaux titans de l'audiovisuel. C'est une édition rééditée, augmentée, publiée en septembre chez Duno. Vous pourrez revenir sur l'arrivée de la plateforme Disney+, analyser ses éventuels avantages concurrentiels et évoquer quelques pistes pour une future rentabilité tant recherchée. À distance, Pierre Lambert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien de l'animation, auteur de nombreux ouvrages consacrés aux créations de Disney, de Mickey Mouse à Blanche-Neige. Vous pourrez retracer la personnalité et l'histoire de Walt Disney, ainsi que son rapport à la technologie, et entrevoir les perspectives de l'intelligence artificielle au service de l'animation. Enfin, en studio à mes côtés, Sébastien Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien salarié du groupe, vous y avez passé 10 ans, notamment pour développer l'innovation dans les parcs d'attractions. Aujourd'hui, vous êtes consultant en communication et vous pourrez nous faire entrer dans les laboratoires R&D de Disney, vous avez la clé je crois, et revenir sur sa dimension de Big Tech. Au programme également une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus nous expliquera comment les séries peuvent être sauvées par leurs fans, et Juliette Deveau poursuivra ses bonnes nouvelles avec le journal d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture.
Dans les années 20, Hollywood est une vision de l'avenir. Hollywood, Los Angeles, c'est là que ça se passe.
On regarde 15 secondes d'un film de Walt Disney, on sait qu'on est dans un dessin animé de Walt Disney.
No dogs allowed.
Fondamentalement, Disney est un homme de marketing, un homme qui aime donner au public ce que le public recherche.
Oh my goodness.
Les Silly Symphonies ont transformé l'animation en art. C'était du jamais vu.
Comment faire mieux et se différencier de ses concurrents? Disney était toujours à l'affût de nouvelles technologies.
En rachetant Fox, Disney se met en ordre de bataille pour affronter Netflix, Amazon, Facebook ou Apple.
L'objectif du groupe est clair, devenir un géant du streaming.
Ça nous donne une plus grande empreinte mondiale et ça nous permet d'utiliser les technologies de pointe pour atteindre le consommateur de manière beaucoup plus convaincante. Nous savons à quel point c'est important de nos jours.
...1923, deux frères, Walter et Roy Oliver fondent à Hollywood Disney Brothers Studio, qui deviendra The Walt Disney Company. Le grand public retient surtout le nom de Walt, mort en 1966. Quel était, Pierre Lambert, son rapport à Walt Disney, à l'innovation?
Ben, son rapport à l'innovation a été permanent pendant toute sa vie, c'est-à-dire qu'il a commencé en innovant, puisque sa toute première série en 1923, Alice Comedies, mélangeait la prise de vue réelle, c'est une petite fille qui était filmée en prise de vue réelle, avec autour des animaux de dessin animé, d'ailleurs il y avait déjà des petites souris. Et donc cette innovation, qui avait été d'ailleurs mise au point par les frères Fleischer, avec Coco le clown, était quand même très innovante à l'époque, et Walt Disney l'a perfectionnée, l'a améliorée évidemment lors de ses premières productions. Ça, c'est sa toute première innovation. Mais la première innovation vraiment essentielle dans sa carrière, évidemment, c'est lors de la création de Mickey, le fait d'avoir produit le premier dessin animé sonore de l'histoire du cinéma, et parlant, bien sûr.
Alors justement, on va en écouter un extrait, puisque c'est le moment fort d'un personnage, Mickey Mouse, qui s'affiche sur grand écran avec un son synchronisé. Hein, c'est bien ça, Pierre Lambière. Il faut comprendre ce que c'était pour l'époque. Je crois même que les spectateurs dans les salles étaient ébahis, subjugués par cette innovation.
Ah oui, complètement. C'était très étonnant. Il y avait le chanteur de jazz qui venait de sortir, évidemment, mais voir un dessin animé parlant et musical, c'était vraiment quelque chose de incroyable pour les gens. Et il faut savoir que c'était enregistré en direct, c'est-à-dire qu'il y avait l'orchestre, il y avait Walt Disney derrière le micro pour faire la voix de Mickey, d'ailleurs, et tout ça était fait en plusieurs prises, évidemment, mais c'était, il fallait l'enregistrer complètement, le film. Donc, pendant 7 minutes, l'orchestre jouait, il y avait une partition qui apparaissait à l'écran, d'ailleurs, en dessous de l'image, et qui permettait aux musiciens et qui permettait aux comédiens d'être synchrones, en particulier avec les effets sonores qui étaient tout à fait rudimentaires, c'est-à-dire avec des ressorts, des bouts de bois pour créer les effets de son.
Et voilà, ça c'est en 1928. D'ailleurs, Walt Disney, on le sait, mais c'est toujours intéressant de le rappeler, a doublé Mickey Mouse pendant plusieurs années.
Oui, jusqu'à 1948, il a prêté sa voix à Mickey. Puis après, il était pris évidemment avec le développement du parc de Disneyland. Mais jusqu'à 1948, il a fait la voix de Mickey. Oui, ça lui tenait à cœur, bah, c'était son personnage. Même si c'est pas lui qui l'a créé graphiquement. Il faut savoir que c'est son associé Ubi Werks qui avait dessiné Mickey le premier, qu'il avait entièrement animé. D'ailleurs, le tout premier film de Mickey était muet. Il s'appelait Plain Crazy. Il a été sonorisé par la suite. Et il avait été entièrement animé, dessiné par Ubi Werks.
Ubi Werks qui est donc tombé sous le coup de l'invisibilité de beaucoup d'animateurs, comme c'est souvent le cas quand on a un personnage charismatique, ou alors finalement il a eu le droit à son heure de gloire.
Il n'a pas eu le droit tout à fait à son heure de gloire, mais Walt Disney lui a proposé d'avoir son heure de gloire parce qu'en 1930, lorsqu'il a quitté le studio, il est parti avec un personnage qu'il avait créé en même temps que Mickey qui s'appelait Flip la grenouille. Il avait pu choisir, Walt Disney lui avait donné le choix dans plusieurs personnages qu'il avait créés. Et donc il a créé son propre studio et son studio n'a pas duré très longtemps. Au bout de quelques années, il a fait faillite. Et Ubi Werks s'est retourné chez Disney et justement dans l'innovation, puisque c'est lui qui a contribué, on en parlera tout à l'heure, à améliorer encore la fameuse caméra multiplane qui donnait une impression de profondeur. Donc Ubi Werks a été fidèle à Walt Disney toute sa vie, sauf pendant ses 4-5 ans où il a fait son propre studio à Hollywood.
Voilà, avec Flip la grenouille qui a donc fait un flop. Sébastien Durand, donc on voit bien que l'innovation est dans l'ADN finalement du groupe.
Depuis toujours, Walt Disney voulait... C'est d'abord un conteur, Walt Disney, mais il compte aussi sur les autres pour apporter une dimension technologique qu'il sent à chaque fois qu'il sent que la technologie peut apporter quelque chose. C'est pas la technologie pour la technologie. D'ailleurs, il s'y est essayé quelques fois à faire des films qui sont uniquement technologiques et c'est pas ses plus réussis parce que ça manque de cœur. Ce qui sauve souvent les films, c'est l'histoire que ça raconte et c'est l'émotion. Mais cette émotion, il a toujours trouvé comment la rendre plus forte. Pierre le disait il y a un instant en amenant le son à une époque où ça surprenait, en amenant la couleur, en amenant la profondeur de chant. Ubi Werks, quand il revient au studio, va devenir le grand spécialiste d'effets spéciaux. Donc toute sa vie, il innove. Il innove tellement que même Walt Disney le prête de temps en temps. On l'ignore, mais c'est Ubi Werks qui fait les effets spéciaux des oiseaux d'Hitchcock, par exemple. Donc Hitchcock venait demander à Walt Disney de l'aide pour le faire. Et c'est lui aussi, Ubi Werks, qui travaillera avec Walt Disney sur d'autres innovations, celles des parcs à thème, et notamment l'invention des automates qu'on appelle les audio-animatronics. Donc ça reste très très fort. Et pour Walt Disney, jusqu'au bout, l'idée c'est de innover, mais au service de quelque chose. C'est pour ça que quand vous présentez au début, on dirait, est-ce que c'est pas un peu une big tech qu'on ignore, Disney? C'est une vraie bonne question. C'est sans doute une société très technologique, sauf que la technologie est transparente, un peu à la façon d'Arthur Clarke qui disait, à un certain moment, la technologie est indiscernable de la magie. Chez Disney, on parle de magie, mais en fait, derrière la magie, il y a de la technologie.
Voilà, derrière la magie, il y a de la technologie. Même si parfois la technologie peut donner une illusion de magie et de fonctionnement autonome, on va questionner justement comment cette magie a tenu ou pas justement au cours de ce siècle. Capucine Cousin, il y a quelque chose d'intéressant avec justement Mickey Mouse, puisqu'on en est à ce moment-là de l'histoire. C'est la question des droits d'auteur. Hein. Mickey Mouse avait des droits d'auteur qui est arrivé à expiration. Walt Disney s'est fait connaître pour justement avoir fait du lobbying pour obtenir justement un rab législatif et passer de 75 à 80 ans pour protéger justement les droits de Mickey Mouse. Je crois qu'ils disparaîtront, enfin ils seront cédés l'année prochaine pour l'apparition de Mickey en 1928. Est-ce que ça c'est aussi le témoin de ces acteurs finalement, de ces multinationales comme Disney et d'autres, puisque vous êtes une experte du streaming, qui arrivent à peser sur le législatif, qui tentent finalement de faire pression sur les régulateurs? On peut citer par exemple une initiative très récente de la Streaming Innovation Alliance qui regroupe donc plusieurs acteurs pourtant concurrents comme Netflix, Warner et Disney pour peser contre le régulateur.
Oui, c'est vrai que Disney est une puissance qui peut contrer éventuellement la volonté régulatrice aux États-Unis. Alors, cela dit, c'est vrai que je suis en train de repenser aux fortes tensions qu'il y a eu entre Disney et le gouverneur de Floride l'année dernière, puisqu'ils avaient un rabais fiscal assez important pour leur parc qui est implanté en Floride. Et finalement, je crois qu'à ce jour, ils ont perdu cet avantage fiscal qu'ils avaient depuis des années et des années, parce que le gouverneur de Floride est un gouverneur conservateur qui ne partageait pas les vues du groupe Disney sur certains sujets de société. Mais en tout cas, jusqu'à l'année dernière, Disney avait pu obtenir ce rabais fiscal sur ce parc d'attractions en Floride.
Voilà. Et ensuite, le deuxième parc d'attractions, effectivement, le premier étant en Californie sur la côte ouest et le deuxième en Floride.
Et ensuite, effectivement, actuellement, il y a des négociations. Suite à cette longue grève des scénaristes qui a duré pendant plus de 6 mois, ces négociations normalement sont censées s'achever ces prochains jours. Là, aujourd'hui, ce jeudi, il semblerait qu'elles soient bloquées. Et ça bloque justement sur les répartitions des revenus chez les streamers. Et effectivement, Disney fait partie de ceux qui ont réussi à bloquer ces négociations pour l'instant.
Alors voilà, petite digression justement dans l'histoire de Disney pour mettre en miroir par rapport à aujourd'hui. Donc on le comprend. Un Walt Disney qui est au plus proche des innovations, qui s'en sert au service d'une histoire, comme nous l'a dit Sébastien Durand, Pierre Lambert. Et on voit que, évidemment, Disney prend des risques, notamment avec la sortie de Blanche-Neige. En quoi la sortie de Blanche-Neige a été assez déterminante et peut-être considérée au début des années 30 comme une sortie hors norme?
Alors, faut prendre les choses dans l'ordre. En 1935, Walt Disney a fait un voyage en Europe. Et lors de ce voyage en Europe, il a découvert sur les Champs-Élysées qu'on projetait un programme de courts-métrages, de ses courts-métrages, à la fois les Mickey et des Silly Symphonies, qui étaient des courts-métrages musicaux. Et donc, il a pris conscience qu'effectivement, il avait raison d'envisager de faire un long-métrage. Et là, on est vraiment pendant l'été 1935. Et donc, il met tous ses moyens et tout son argent, ses économies, même il hypothèque sa voiture, pour pouvoir mener à bien ce premier long métrage. Il faut savoir que c'était une aventure, parce qu'il est passé de 10 personnes lorsqu'il a créé Mickey, le studio avait 10 personnes, à plus de 700 lorsqu'il a fait Blanche-Neige. Les gens sont arrivés au fur et à mesure des années 30, au fur et à mesure de la production des courts-métrages de Mickey, puis de Donald, puis de Goofy, des Silly Symphonies. Le studio s'est enrichi, les artistes se sont améliorés, évidemment, la technologie s'est améliorée aussi, et ça a été une aventure extrêmement compliquée et de faire ce premier dessin animé de long métrage. Alors les gens étaient surpris, parce que personne n'imaginait qu'on pouvait tenir pendant 1h20, aujourd'hui ça paraît absurde, mais tenir pendant 1h20 sur un dessin animé. Pour les gens, on voyait un ou deux courts-métrages avant un long-métrage de prise de vue réelle et ça s'arrêtait là. Donc c'était très innovant et comme le film a été très réussi, évidemment, et que le succès a été immédiat, la vie de Walt Disney a changé ce jour-là, parce que ça lui a permis de développer d'autres projets de long-métrage en même temps, encore plus ambitieux au niveau de la technologie et de la dimension artistique, comme Fantasia, par exemple. Et donc, ça a été vraiment l'âge d'or des studios Disney à cette époque. Ils sont encore passés de 700 personnes en 2 ans à 2000 personnes. Vous voyez, c'était vraiment très, très impressionnant. D'autant plus qu'il faut savoir que le dessin animé était quelque chose de très artisanal. Là, évidemment.
Donc là, on voit bien qu'effectivement, avec Blanche-Neige, il y a eu un changement de dimension. Et voilà, et dans la foulée, Disney va donc pouvoir financer la construction d'un vaste studio qui pourra lui servir à produire Pinocchio ou encore Bambi. On fait un petit saut dans le temps, on arrive en 1955, une date que vous connaissez bien, Sébastien Durand, puisque c'est l'ouverture justement d'un parc d'attractions, une activité encore aujourd'hui très rentable pour Disney, un développement à ciel ouvert justement de son imaginaire, de ses personnages. En quoi justement la création de ces parcs, vous l'avez un peu évoqué, est à la fois constitutif du développement technologique de Disney et aussi de son image.
Parce que, en fait, une fois que Disneyland est ouvert, d'un point de vue d'ailleurs d'avancée des technologies, Disney pourra se permettre beaucoup de nouvelles expériences. Parce que jusqu'à présent, chaque film vit sur le succès du précédent. un bide, c'est le studio dont la vie est remise en question. Le studio fait un film, puis un film, puis un film. Donc ça marche, Blanche-Neige, gros succès. Pinocchio, ça marche moins bien. Fantasia, ça marche pas. Le studio est au bord de la ruine. À partir du moment où il va ouvrir Disneyland, il pourra se permettre. Il y a toujours des millions de touristes qui viennent. Un peu moins certaines années, un peu plus certaines autres. Mais à partir du moment où il y a ce matelas de sécurité.
C'est une assurance, en fait.
Exactement. Il peut prendre des risques sur tout le reste. Donc il prend des risques sur les attractions. Il va inventer de nouvelles. Il va se servir de nouvelles technologies très vite sur le parc. Mais il s'en sert aussi dans le cinéma. Il continue. Au moment où il ouvre Disneyland, il se lance dans les grands écrans, façon cinémascope, 70 mm. Il va passer à la xérographie au début des années 60, qui permet de transférer les dessins des animateurs directement sur les celluloïdes. Donc, il peut se permettre de nouvelles tentatives qui, avant, auraient été... à chaque fois, il pouvait perdre sa chemise. Donc, les parcs, c'est vraiment ça qui va changer.
Oui, c'est intéressant avec les parcs, c'est, comme vous le dites, c'est cette hybridité, cette interaction, finalement, entre le cinéma, la technologie développée dans le cinéma et la technologie qu'on peut appliquer directement dans un parc.
Les gens qui créent le parc viennent de l'animation, viennent du cinéma. C'est-à-dire que Walt Disney, où est-ce qu'il trouve les gens qui vont lui concevoir les attractions ? Il les trouve dans son studio. Donc, le studio, il faut imaginer, c'est un film en trois dimensions. Avant la trois dimensions, on rentre dedans. D'ailleurs, c'est le rêve de Walt Disney, c'est faire entrer les spectateurs à travers l'écran. C'est Woody Allen avec la rose pourpre du Caire où on traversait l'écran. Donc, à partir du moment où il a une technologie folle, on peut rentrer dans l'écran et vivre les aventures. Là, il va pouvoir le faire. Et effectivement, il y a une hybridation. Dans le parc, on utilise les écrans. Il y a des choses qui sont projetées. Donc, on est proche de ça. Et puis, en même temps, on raconte des histoires. On reprend les mêmes, on en crée d'autres. Et c'est comme ça que les parcs vont permettre de développer. C'est le deuxième niveau de technologie chez Disney après les films.
Voilà, le deuxième niveau. Donc, je le disais, premier parc 1955. Et puis ensuite, un second aux États-Unis. Et ensuite, c'est le développement à l'international.
Le Japon, la France, la Chine.
Voilà, Euro Disney. Mais ça, c'est Walt ne le verra pas.
Non, et même le deuxième parc, il ne l'a pas vu, il n'a vu que le premier.
Il a vu que le premier et il imaginait sans doute une succession de parcs qui allaient s'implanter à travers le monde. Ça faisait peut-être partie d'un plan rêvé. On poursuit justement cette avancée du siècle de Disney. Walt s'en est allé, son frère aussi. On voit que l'entreprise se retrouve un peu orpheline, ne sait peut-être pas trop comment ni vers où se diriger. Et puis après, il y a d'autres patrons emblématiques qui vont arriver, dont Bob Iger. Et là, on a une volonté d'acquisition, une volonté de développer aussi le catalogue avec notamment le rachat de Pixar après quelques moments de collaboration. On est en 2006, on va écouter justement Bob Iger qui nous révèle comment il a dealé un contrat assez exceptionnel à l'époque avec Steve Jobs.
Peu après être devenu PDG de la Walt Disney Company, j'ai eu cette folle idée d'acheter Pixar. Nous avions un partenariat avec eux depuis des années qui allait arriver à terme. J'avais l'intention de revitaliser le département animation de Disney à cette époque. Je me suis dit, on rachète Pixar et on intègre son équipe créative à la nôtre. Et tout le monde sera content. Nous étions en train de convenir d'un accord avec Steve Jobs pour racheter Pixar pour 7,4 milliards de dollars. Et une heure avant l'annonce du deal, il m'a emmené faire un tour et m'a dit qu'il avait une récidive de cancer. Il m'a donné une chance de me retirer de l'accord. J'ai eu environ une demi-heure pour me décider. Ce n'était pas évident, parce que je ne pouvais en parler à personne, je devais respecter une certaine confidentialité. J'ai dû me décider tout de suite et je lui ai dit « Merci pour ta franchise ». Mais l'achat de Pixar est maintenu.
Bob Iger, donc patron emblématique de Disney qui en est parti, puis qui est revenu justement pour essayer de redresser le cap de l'entreprise qui aujourd'hui a des difficultés économiques. On aura l'occasion d'en reparler. Capucine Cousin, quelle stratégie derrière l'acquisition de Pixar en 2006 ? C'est un coup pour racheter justement des marques, un catalogue. Quelle est la visée stratégique ?
Pixar, donc, c'était le champion des films d'animation, comme on disait à l'époque. C'était un type d'image qui était assez moderne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner les autres acquisitions qui sont venues après Pixar en 2006. Trois ans après, quand même, il a racheté Marvel. Marvel, c'était des films, des dessins animés de super-héros. Mmh. Et ça reste un de ses fonds de catalogue les plus précieux aujourd'hui, qui permettent de toucher, là encore, les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi les geeks de notre âge. Et en 2012, autre gros coup, il rachète Lucasfilm. Lucasfilm, quand même, c'était tous les Indiana Jones, les Star Wars. Et pareil, ça lui a permis d'élargir encore plus l'univers Disney. C'est-à-dire qu'on n'était plus seulement dans les petits dessins animés et les contes pour enfants. On arrivait dans un univers un peu geek avec Marvel et Lucasfilm quand même. Ça lui permettait d'agrandir encore l'étendue de la marque Disney vers donc ces univers un peu geek, un peu technologiques, notamment avec l'univers de Star Wars.
Pierre Lambert, la force est est avec vous. Comment on peut analyser justement le rachat de Pixar à ce moment-là, peut-être du côté de l'esthétique de l'animation?
L'imagination était, et l'audace était du côté de Pixar et de John Lasseter. Il faut bien oublier que le deuxième aurait été long métrage en 3D, en image de synthèse, Toy Story, était tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Il a fallu mettre au point des machines, grâce d'ailleurs à Apple, des machines extrêmement performantes qui ont permis d'animer les personnages. Mais il a une idée d'ailleurs très intelligente. Il n'a pas animé très peu de personnages humains, il a animé des jouets. Et les jouets, c'était beaucoup plus facile à l'époque de pouvoir les animer en 3D. Les humains, c'était absolument ridicule. Il a fallu attendre l'évolution de la technologie année après année pour pouvoir les rendre crédibles pour un long métrage. Et c'est vrai que l'originalité de John Lasseter, elle vient du fait qu'il a été animateur au départ sur Ox et Rookie, et donc il a commencé en dessinant, en étant un animateur classique, comme on faisait à l'époque de Blanche-Neige, tout simplement, en travaillant avec autour de lui de grands animateurs tout à fait traditionnels, y compris des anciens qui avaient travaillé sur Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi, etc. Donc il a une formation tout à fait classique, et c'est les anciens films de Walt Disney qui le faisaient rêver. Et lorsqu'il a fait Pixar, il s'est dit, je vais faire la même chose, dans le côté audacieux, original, mais avec la 3D. Et parce que la 3D va permettre de faire des choses extraordinaires. Et il avait raison, il a fallu quelques années avant que les choses soient deviennent vraiment extraordinaires, mais elles le sont devenues. Avec toujours comme base, par contre, de raconter des histoires comme le faisait Disney, originales, et avec des codes de Disney qu'on retrouve dans ces histoires, évidemment.
Sébastien Durand, on a entendu tout à l'heure Bob Iger parler de Steve Jobs. Quels sont les liens finalement avec Apple? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de filiation aussi, de respect mutuel entre Apple et Disney, du moins les dirigeants de l'époque. Je crois d'ailleurs qu'avec ce rachat, Steve Jobs est même devenu un administrateur pendant un moment donné sur Walt Disney, voire un actionnaire assez important.
Oui, c'est devenu l'actionnaire individuel le plus important du temps où il était vivant. Les rapports entre... Alors Pixar, c'est une drôle d'histoire parce que c'est né chez Lucasfilm. C'était la division d'ordinateur de George Lucas qu'il a vendu à Steve Jobs au moment où il ne dirigeait plus Apple et qui a dirigé lui-même Pixar. Puis il a repris la tête d'Apple et il avait la volonté qu'il puisse faire le premier long métrage d'animation. Donc ils ont travaillé avec Disney et beaucoup d'innovations de Disney des années 80 et 90 sont faites avec des logiciels de Pixar. La scène de bal dans La Belle et la Bête où on les voit danser, c'est des images Pixar derrière. Et quand le Mufasa meurt, parce que c'est une séquence qui nous a
donner la fin
dans Le Roi Lion, le troupeau de gnous est animé grâce à Pixar. Donc il existait des rapports entre les deux studios et très vite, grâce à Roy Disney qui faisait la liaison, Roy qui est le neveu de Walt Disney et non pas le frère qui lui était mort. Et donc très vite, ça se passe très bien. Et que lorsque Bob Iger devient PDG en 2005, il a un rapport très direct et très filial avec Steve Jobs. Steve est intéressé d'ailleurs pour savoir comment ça s'est passé après la mort de Walt Disney. Donc on voit que lui-même réfléchissait à l'après Steve Jobs chez Apple. Donc ça l'intéressait de voir comment on garde des choses et comment on n'est pas bloqué par ça. Et tout. Et donc, effectivement...
Et peut-être, là, vous avez évidemment parlé de la manière dont Apple pouvait s'inspirer de Disney, notamment, pourquoi pas pour imaginer un après, mais comment Disney s'est peut-être inspiré d'Apple? Apple est une entreprise de la tech et on l'a dit, Disney, c'est peut-être un gros de la tech.
Oui, mais lorsque l'iPad a été créé, avant qu'il ne soit communiqué au public, pendant un an, les animateurs de chez Pixar et Disney utilisaient des iPads. Et Apple utilisait leur retour, le feedback qu'ils faisaient sur les dessins pour savoir quelles étaient les capacités graphiques de sa tablette. Donc on voit qu'il y avait des rapports très forts entre les deux entreprises. Elles partagent un goût pour le design, elles partagent un goût pour la beauté. Après, il y a des grosses différences, mais très vite, effectivement. Et donc, lorsque Steve Jobs a été convaincu, il a vendu Pixar et en échange, il est devenu actionnaire de la Walt Disney Company.
Capucine Cousin, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette frénésie d'achat, donc après Pixar, on a la franchise Marvel pour 4,2 milliards, et puis ensuite Lucasfilm pour 4 milliards de dollars, Star Wars et toutes ces déclinaisons. Alors là, on se dit qu'on a un catalogue qui est colossal, c'est-à-dire avec tout ce que Disney a fait jusque-là, ajouté à ses différentes licences, donc c'est le moment parfait pour lancer une sorte de Disney+. Son offre de streaming qui a été lancée en 2019, une offre de streaming qui peine pour l'instant à tirer son épingle du jeu. Quels sont pour autant ses avantages concurrentiels?
Et il faut rappeler aussi qu'il a racheté la 21st Century Fox en 2017. Donc c'est vrai qu'il avait un catalogue très large pour couvrir un univers de divertissement familial très large. Moi, je pense que le premier gros atout de Disney, c'était la marque Disney. Parce qu'en Europe et en France, tout le monde connaît Disney, tout le monde a regardé Disney Channel quand il était petit. Et c'est vrai qu'on parlait des dessins animés emblématiques de Disney. Donc il y a quand même voilà, il y a la force de cette marque qui, je pense, mettait en confiance d'emblée les téléspectateurs potentiels. Alors que Netflix, quand Netflix est arrivé en 2014 en France, c'est une marque, c'était une marque tech, en quelque sorte.
Bien sûr.
Voilà. Alors que Disney,
on rappelle qu'il distribuait des DVD par la poste.
Ouais. Donc ça, pour moi, quand même, il y avait la force de la marque Disney, une marque familiale très rassurante pour les familles. Je pense que c'était une grande force. Ensuite, le second atout, effectivement, c'est la largeur de ce catalogue qui couvrait donc l'univers familial de façon assez large, que ce soit vraiment les dessins animés pour enfants, en passant par les films d'aventure familiaux Indiana Jones, et ensuite donc les films Star Wars qui ont irrigué, qui ont couvert plusieurs générations. Et c'est vrai que là, ça ouvrait vraiment un boulevard pour Disney pour décliner cet univers Star Wars à l'infini, ce qu'il a fait bien sûr, parce que quand il a lancé Disney+, donc il faut rappeler que Disney+, a été lancé en France et en Europe en plein confinement en mars 2020.
D'ailleurs, un moment rêvé pour les plateformes de streaming.
D'ailleurs, Disney avait accéléré pour lancer sa plateforme, parce qu'il savait que c'était le bon moment, puisque de toute façon, on n'avait pas trop le choix.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un public captif.
Voilà, exactement, dans tous les sens du terme. C'était ça, on était captif chez nous à ce moment-là. Et c'est vrai que Disney, quand il a lancé Disney+, paf, il a lancé The Mandalorian, donc c'était la première déclinaison de l'univers Star Wars dans une série télévisée avec un focus sur un personnage particulier. C'était très réussi d'un point de vue esthétique, bien réussi d'un point de vue du scénario, et c'est vrai que ça a vraiment retenu l'attention. Et là, c'est vrai qu'à ses débuts, Disney+, a engrangé pas mal d'abonnés.
Oui, mais aujourd'hui, ça coince un peu, parce qu'effectivement, et alors pourquoi ça coince ?
C'est vrai que, comme les autres, il a été porté par l'effet confinement. Et là, c'est vrai que ça fait plusieurs trimestres de suite qu'il perd des abonnés. Là, aujourd'hui, on est à 146 millions d'abonnés. Et là, je regardais, encore en février 2023, on était à 162 millions d'abonnés. Donc, c'est-à-dire que là, depuis plusieurs trimestres, de trimestre en trimestre, il perd plusieurs millions d'abonnés dans le monde.
Sébastien Durand, peut-être qu'ils se sont peut-être lancés trop tard, Disney+, dans la conquête du streaming ? Ou comment, quelle est votre analyse, vous qui connaissez bien la maison, pour essayer de comprendre pourquoi Disney+ ne résiste pas ou ne tient pas plus que ça, et en position de challenger, mais de...
Ouais, je pense que, enfin, moi, j'ai une vision de Disney qui est sur un siècle, j'allais dire. Donc, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Quand Disneyland a ouvert, tout le monde s'y intéressait. Puis après, avant qu'il ne fasse de nouvelles attractions, il y a une baisse de fréquentation. Voilà, je pense que, comme le disait Capucine Cousin, la force de Disney, c'est un catalogue quand même qui reste exceptionnel et une force de la marque sur les familles et qui donc va durer, est là pour s'inscrire dans le temps. Contrairement à d'autres qui se lancent dans le streaming et qui font très vite qui feront leur bagage si ça marche pas, Disney a la force de résister. Après, ils ont face à eux aussi des gens très très bons. Netflix n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Et après, il y a certainement, comme vous le dites, l'effet juste après le confinement où on était porté par le confinement. Après, moi, je suis pas un spécialiste des dernières tendances du streaming, mais je vois que dans les parcs, dans les films, quand Disney a lancé des produits innovants, ça met du temps, ça peut bien
ça met du temps. Mais justement, là, Disney+, c'est pas un produit innovant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pionniers du streaming. Ils ont même plutôt copié ce qui était l'existence. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça pêche. On peut lire dans la presse, potentiellement à Capucine Cousin, la possibilité de renoncer à la plateforme de Disney+. On voit qu'aujourd'hui, donc, elle perd de l'argent, ce qui met la pression, du côté des actionnaires, qui, elles-mêmes, mettent cette pression du côté de la direction. C'est possible qu'à un moment donné, Disney se dise, on revient en arrière, Disney+ n'a pas fonctionné, ça nous fait perdre trop d'argent.
Ça me semble peu probable parce que quand même, en un an, Disney a réussi à réduire les pertes sur sa partie streaming. Là, quand il a communiqué ses derniers chiffres, le 10 août, on était à environ 500 millions de dollars de pertes. Alors qu'un an auparavant, Disney Plus a aligné 1 milliard de dollars de pertes. Donc quand même, bon, il y a eu un plan d'économie très sévère en début d'année avec 7000 licenciements au sein du groupe et également une réduction des coûts, etc., qui commence quand même à porter ses fruits. Ce qui me semble plus probable, c'est que je pense, comme à d'autres périodes de son histoire, peut-être que Disney va être amené à revendre certains actifs dans certains pays. Là, la presse économique évoque le fait qu'il pourrait revendre ses activités audiovisuelles et streaming en Inde, par exemple.
Avec ESPN, Andro, avec beaucoup de bouquets, c'est ça, de chaîne, ouais. Effectivement. Mmh. Pierre Lambert, dernière question avant d'écouter un petit medley musical. Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être d'une lassitude du public vis-à-vis du catalogue Disney, vous qui en êtes un spécialiste qui, à travers de nombreux ouvrages, vous avez raconté ces différents récits. Est-ce que finalement ce catalogue classique aujourd'hui est toujours attractif pour la nouvelle génération ?
Eh ben, écoutez, c'est très amusant ce que vous dites, parce que en réalité, il y a très peu de dessins animés qui sont diffusés. Il y a tous les grands classiques, bien sûr, mais les courts-métrages, il y en a eu plus de 700 de produits. On a parlé brièvement des débuts de Walt Disney entre 1923 et on est vite allé en 1955, mais entre les deux périodes, il y a eu 500 courts-métrages de fabriqués. Et ces 500 courts-métrages, on ne les voit pas sur Disney+. On les voit pas. C'est-à-dire qu'on en voit, j'ai regardé 40, 50, voilà, et à peu près toujours les mêmes. Mais il y a un catalogue absolument extraordinaire de courts-métrages de Mickey, de Donald, de Goofy, voilà, Tic et Tac, etc.
Qui n'est pas exploité, donc, selon vous, qui n'est pas assez exploité.
Oui, et en plus de grande qualité, parce que la qualité de l'animation de l'époque, c'est pas la qualité de la série télé, vous comprenez? C'est pas des choses qui sont faites à la chaîne derrière des ordinateurs. C'est des films qui ont été pensés par des artistes. Et lorsqu'on les revoit, on dit, ah, c'est quand même charmant, c'est bien animé. Mais on s'attache au personnage, mais c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de qualité derrière. Et ces films-là ne sont pas diffusés. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines et centaines de dessins animés qui seraient à redécouvrir, que les gens ne connaissent pas. Il y a même des longs-métrages, hein, des programmes qui compilaient plusieurs courts-métrages musicaux, par exemple dans les années 40, qui sont formidables. Ils ne sont pas tous diffusés. Et le problème, c'est que quand on arrive sur le site, on a une profusion de propositions. Et c'est un peu perdu dans toutes ces propositions, ces courts-métrages.
Donc vous ne pointez pas du doigt l'éventuelle lassitude, mais plutôt la sous-exploitation d'un patrimoine de Disney. Vous reveniez un peu dans le temps, on va aussi attaquer en musique et dans le temps avec Happy Mouse, qui va ouvrir toute une kyrielle de personnages Disney. Et on se retrouve dans un instant dans Le Meilleur des Mondes.
France Culture, Le Meilleur des Mondes, François Saltiel.
I'm a happy mouse.
C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal.
C'est bien la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils.
Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale, en poussant très royalement un rugissement bestial.
Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais.
Voulez-vous voir un monde étrange, où l'on aime les démons et pas les anges?
Et on appelle ça un medley qui nous a fait revivre donc ce siècle en partie de production de Disney. Pierre Lambert, vous en avez reconnu quelques-unes ?
Ah bah oui, bien sûr. Mais là, on était dans les 20 dernières années, hein, 30 dernières années.
Ah bah il voilà. Y a eu un dé. Alors je sais que vous êtes attaché à l'histoire, c'est normal, c'est votre rôle et votre fonction, mais on avait un Happy Mouse quand même qui remonte à plus loin que ces 20 dernières années. Mais sinon, vous aviez raison. Il y a eu Le Roi Lion, La Reine des Neiges, L'Étrange Noël de Jack, et puis Sébastien, le dernier qui manque.
Oui, Aladdin notamment, la
convention. Aladdin, mais voilà, mais vous êtes merveilleux. Et ça, c'est une bonne nouvelle que vous connaissiez justement l'œuvre de Disney par cœur. Et les bonnes nouvelles, il en sera question dans un instant. Avec notre journal.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Et on ouvre ce journal avec le rôle délétère joué de nouveau par la plateforme X, anciennement Twitter, dans le cadre de la reprise du conflit israélo-palestinien cette semaine. Alors qu'Elon Musk s'était engagé en principe à coopérer avec l'Union européenne pour faire de son réseau un endroit sûr, des milliers de vidéos et de photos violentes liées au conflit ont été diffusées sur la plateforme ces derniers jours, des contenus parfois poussés par des acteurs impliqués dans des opérations de désinformation. Un raz-de-marée qui a entraîné une réaction rapide du commissaire européen Thierry Breton, qui rappelait il y a trois jours dans une lettre publique adressée à Elon Musk les devoirs de modération induits par l'entrée en vigueur du Digital Services Act en août dernier. Parmi ces devoirs, la nécessité d'agir pour mieux modérer la plateforme et l'obligation de fournir des preuves à l'Union européenne des moyens déployés en la matière. Si l'on ignore encore la forme de la sanction encourue par Musk, il y a fort à parier que le commissaire européen se saisisse de cette opportunité pour sanctionner lourdement X en cas de non-collaboration. La crédibilité de l'Union européenne et de son règlement sur le numérique est en jeu.
Et l'on continue ce journal, Juliette, avec une sanction, celle-ci déjà libérée et délivrée.
Il s'agit d'une amende infligée dans l'espace. On apprenait ce lundi 2 octobre que la Commission américaine des communications avait infligé une amende substantielle de $150 000 à une entreprise pour avoir abandonné un débris dans l'espace. L'entreprise en question, Dish Network, s'était engagée auprès de l'autorité américaine a propulsé un satellite hors service dans une zone dédiée aux débris spatiaux, 300 km plus haut, mais la firme n'a finalement pas été en mesure de répondre à cette demande, justifiant cette sanction historique. C'est en effet la première fois qu'une amende est infligée pour lutter contre la pollution spatiale, fléau méconnu et pourtant déjà bien réel. 10 000 satellites saturent déjà l'espace et ce chiffre est amené à croître dans les prochaines années, si l'on en croit la feuille de route d'entreprises privées comme SpaceX et Amazon. Espérons donc que cette décision de l'autorité américaine marque l'entrée dans une ère de régulation de ce territoire commun qui échappait jusqu'alors au regard des régulateurs.
Et l'on termine avec un service de streaming vidéo assez particulier.
Et oui, alors que l'on évoque depuis le début de cette émission la bataille qui fait rage entre Netflix, Disney+, et Amazon, d'autres plateformes de streaming plus confidentielles prospèrent-elles à l'abri des regards? C'est le cas de Imajo qui s'est imposé en 4 ans comme la référence du streaming français dédié à la transition écologique. Sur cette plateforme, pas de série à binge-watcher, mais des documentaires, des courts-métrages, des émissions et même des podcasts consacrés à la transition sous toutes ses formes pour nous aider à penser des modèles de société alternatifs. Et pour coller avec sa ligne éditoriale, la plateforme s'appuie sur une technologie de streaming responsable. Les serveurs tournent aux énergies renouvelables. Le peer-to-peer est privilégié pour héberger les contenus et les vidéos sont proposées par défaut en résolution moyenne. Une preuve que le streaming aussi, lorsqu'il est bien conçu, peut être mis au service d'un monde meilleur.
Merci Juliette pour ce journal qui termine sur le streaming qui peut être conçu au service d'un monde meilleur. Ce soir, c'est le meilleur des mondes qui se consacre à Walt Disney et également à ses activités de streaming. Nous sommes en compagnie de Capucine Cousin, journaliste et autrice de Netflix, Amazon, Disney et compagnie. Dans le compagnie, il y a peut-être d'ailleurs Imago et la bataille des nouveaux titans de l'audiovisuel avec Pierre Lambert, historien de l'animation, grand connaisseur de Walt Disney, et Sébastien Durand, spécialiste de l'innovation chez Disney, ancien spécialiste de l'innovation, notamment du côté des parcs d'attractions. Et on continue justement d'explorer ce siècle de technologie. On l'a rappelé juste avant le journal, cette crise traversée aujourd'hui par Disney avec Disney+. Alors, une crise temporaire, nous disent les optimistes, car la vie d'une entreprise est faite d'aléas. Sébastien Durand, je l'avais dit en introduction, telle une promesse sur ces laboratoires de R&D, vous qui avez bien connu l'innovation. Disney en possède plusieurs, de laboratoires de recherche dans le monde. Comment ils se positionne? Quelle est la vision de Disney lorsqu'on parle de technologie de pointe? Est-ce que c'est une création qui est prolixe? Comment ils sont placés justement à cet endroit-là?
Alors, il se trouve que depuis le milieu des années 2000, ils ont effectivement, Disney, ouvert deux centres de recherche et développement. Avant, les choses étaient faites plus en interne. Il y avait surtout de la recherche et développement faite au niveau des parcs. Il y a une division qui s'appelle Imagineering qui conçoit les parcs. Imagineering, c'est le mélange d'imagination et d'engineering. Mm-hmm. Donc, voilà, les gens qui créent les attractions vont à la recherche des technologies. Depuis une quinzaine d'années maintenant, ils sont aidés par des laboratoires que Disney a, l'un à Los Angeles et l'autre à Zurich, et qui travaillent sur ces sujets et sur des technologies qu'on peut amener dans les parcs. L'idée, c'est toujours d'aller voir ce qui existe dans d'autres domaines et de voir comment ça peut s'appliquer pour les parcs à thème. L'une des choses connues qui a été faite dans le passé, c'est par exemple lorsque Disney avait discuté avec George Lucas, bien avant qu'il rachète Lucasfilm, de créer une attraction basée sur Star Wars. C'est parce qu'un des concepteurs à l'époque avait vu développer par l'armée américaine des simulateurs de vol. Et il s'était dit, est-ce que ces simulateurs de vol, comment on pourrait les amener? Et George Lucas avait dit, mais faites quelque chose autour de Star Wars. Et c'est comme ça qu'est né Star Tours. Donc l'idée, c'est toujours de voir quelles sont les technologies qui peuvent être faites. Et ça remonte à Walt Disney lui-même, qui était passionné par les automates, qu'il avait découvert en France, à Strasbourg. L'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg l'avait impressionné. Il avait 17 ans, le 14 juillet 1919, il était en France, et il a vu l'horloge.
Ça, c'est du storytelling ou c'est...
C'est de l'histoire. Il a passé une année en France après la Première Guerre mondiale, et le 14 juillet 1919, il était à Strasbourg. Ce qui est du storytelling, c'est qu'il raconte qu'il a tenté de monter à la tour pour voir les automates de près, qu'on l'en aurait empêché, et après enquête, a priori, il n'est pas monté à la tour, mais il les a vraiment vus en tout cas. Et en tout cas, il est resté passionné par les automates toute sa vie. Il a développé des automates qui étaient branchés sur informatique au début des années 60. Et aujourd'hui, dans ces laboratoires, on travaille sur la prochaine génération qui ne s'appelle plus des audio-animatronics, mais des stunt-tronics. Stunt, c'est cascade. Mmh. Et donc, ce sont des automates qui peuvent quitter le sol. Donc, ils peuvent tomber, se relever tout seuls, qui peuvent sauter, qui peuvent voler. Et donc, voilà, la prochaine
génération... C'est la mort des cascadeurs.
C'est pour éviter que certains cascadeurs, X fois par jour, parce qu'un cascadeur dans un film, il fait une fois sa cascade. Dans un parc Disney, il fait... Spider-Man saute d'un building à l'autre toutes les deux minutes.
C'est une bonne pirouette hein, pour justement expliquer que le métier de cascadeur est peut-être menacé, alors que sa fonction même est justement de frôler la mort par illusion. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Pierre Lambert, puisqu'on parle de technologie aujourd'hui en 2023, on n'est jamais loin de l'intelligence artificielle qui est évidemment développée depuis longtemps du côté de Disney comme chez les autres. Quel peut être son rôle dans les techniques d'animation dont vous êtes un spécialiste, Pierre Lambert?
Bah écoutez, pour l'animation 3D, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Il possède déjà, quand il crée par exemple Toy Story, lorsqu'il crée un personnage, le personnage, ils peuvent l'animer de toutes les façons qu'ils veulent. Une fois qu'il est conçu, qu'il a été créé, on peut l'utiliser dans d'autres décors à l'infini. Donc, et au-delà d'ailleurs. Et donc en réalité, pour l'animation, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que pour ça qu'ils ont fait Toy Story 2, 3, 4, il y a une économie considérable lors de la fabrication de ces suites du premier film, parce que tout le travail de conception avait été fait. Après, ça dépend de l'imagination des auteurs, mais je pense pas que l'intelligence artificielle aura autant d'imagination que les scénaristes de Pixar, à mon avis. Pour le dessin animé, bah là on n'en parle pas, puisque le dessin animé, ça se fabrique plus ou très peu aujourd'hui. Et c'était fait entièrement à la main. Donc c'est vraiment valable uniquement pour la 3D. Je crois davantage pour la prise de vue réelle. Effectivement, on voit des choses quand même très étonnantes. La technologie évolue très vite et elle n'est pas prête de nous surprendre. Elle va nous surprendre encore, je pense, dans l'avenir. Maintenant, au niveau des films d'animation, vous savez, c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, le studio concurrent DreamWorks a fait Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait une économie considérable en réutilisant les mêmes personnages puisqu'ils sont dans des ordinateurs. Il n'y a pas besoin de les redessiner à la main.
Voilà, il n'y a pas besoin de les redessiner à la main, on peut les dupliquer. Il y a aussi une autre technique qui est développée par Disney, qui est le système Medusa, qui permet de créer des humains numériques qui seraient quasiment impossibles de distinguer de leurs homologues de chair et de sang. Tout ça fait partie justement des craintes et des inquiétudes aujourd'hui qui irriguent les auteurs, les scénaristes et même les comédiens à Hollywood. Capucine Cousin rappelait cette grève dont une est terminée, mais il en reste encore une autre, celle des comédiens. Puis les inquiétudes demeurent. Je vous propose d'écouter Bryan Cranston, qui était connu pour son rôle dans Breaking Bad. Il s'adresse justement à Bob Iger, le directeur Disney Disney, qui a été très dur lors de ce mouvement de grève.
We've got a message for Mr. Iger.
Nous avons un message pour Monsieur Iger.
Je sais, monsieur, que vous avez un regard différent sur les choses. Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez qui nous sommes, mais nous vous demandons de nous écouter. Et plus encore, de nous écouter quand nous vous disons que nous ne nous laisserons pas voler nos emplois pour les donner à des robots. Nous n'accepterons pas que vous nous priviez de notre droit de travailler et de gagner décemment notre vie. Enfin, et c'est le plus important, nous ne vous permettrons pas de nous priver de notre dignité.
Capucine Cousin, on les a vus, ces piquets de rêve pendant longtemps, ces images d'un Hollywood à l'arrêt, ces auteurs, ces scénaristes, peut-être même ces cascadeurs qui s'inquiètent du développement des nouvelles technologies. Ça, j'imagine qu'en termes d'image pour les acteurs du streaming, est-ce que ça va laisser des traces ?
Oui, parce que ce qui a été beaucoup dit par les grévistes, c'est que un de leurs principaux griefs, c'est comment les streamers cherchent à renégocier leur contrat de rémunération qui était mis en place depuis des années et des années. Et sur l'intelligence artificielle, effectivement, il y a un certain nombre de craintes qui émergent déjà dans le secteur. Je voyais un dirigeant du secteur audiovisuel en France ce matin qui me disait que lui a entendu dire qu'à Hollywood, certains dirigeants ont attendu que la grève dure et dure pour en profiter. Pour mener des plans de licenciement qui ont lieu ou qui vont avoir lieu, et que de toute façon, dans des productions low cost, il y aura des recours à des intelligences artificielles. On l'a lu déjà dans la presse française, même la presse culturelle française. L'intelligence artificielle va permettre de remplacer certains doubleurs, certains traducteurs, des cascadeurs, etc. Il y a quand même des pans entiers des métiers à Hollywood qui sont menacés par ces intelligences artificielles. Je pense vraiment, c'est ce qu'on me disait ce matin, et je pense que c'est un fait, qu'on aura des méga blockbusters, des grosses productions à plus de 200 millions de dollars de budget, qui marcheront très bien pour certaines, comme on a vu cet été avec Barbie et Oppenheimer. Et on aura des films low cost, éventuellement produits par des streamers, où il y aura des recours assez nombreux aux intelligences artificielles dans une logique d'économie de coûts. Et effectivement, il y aura des pans entiers des métiers à Hollywood qui seront touchés directement.
Alors justement, des économies, Bob Iger, le patron de Disney, en fait. Il a annoncé la suppression de plus de 7000 postes et promet donc 5,5 milliards de dollars d'économies pour toujours rassurer ses investisseurs. Pierre Lambert, vous qui avez une grande mémoire. En 1941, il y a eu une grève également des salariés du studio Disney. Comment elle a été gérée à l'époque par Walt Disney ?
D'abord, déjà, la grève, c'était pas seulement pour une augmentation de salaire. La grève, elle a été gérée tout simplement parce que Walt Disney est parti en Amérique du Sud faire une tournée et travailler avec plusieurs de ses artistes sur d'autres films. Et lorsqu'il est revenu, la grève s'est arrêtée tout simplement.
Mais c'est-à-dire qu'il a suffi qu'il parte pour qu'elle s'arrête.
Oui, enfin, c'est pas tout à fait comme ça que c'est passé, mais disons que c'est ce qui, quand même, il a pris la tangente, quoi, voilà.
D'accord.
Pendant la grève. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'était une grève comme on en voit beaucoup. Je veux dire, on en parle parce que c'était la seule grève des studios Disney, mais en réalité, non, c'était pas, ça n'a pas bouleversé le studio. Ce qui a bouleversé le studio, c'est la Seconde Guerre mondiale. Le fait que Disney était privé de la distribution de ses films en Europe, il n'y avait que Blanche-Neige qui était sortie avant la Seconde Guerre mondiale et qu'il fallut attendre l'après-guerre, 1945, 46, 47, pour que le public européen découvre les longs-métrages de Disney, c'est-à-dire Bambi, Dumbo et Pinocchio. Donc, c'est ça qui a été très, très embêtant, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de licenciements à ce moment-là, parce que justement, le studio n'avait plus les moyens, suite aux échecs, Sébastien l'a dit tout à l'heure, de Fantasia, en particulier, de pouvoir maintenir autant de monde dans son studio. Et le studio est redescendu à peu près à 700 personnes après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, le studio est encore redescendu d'un cran au début des années 60, à peu près à 350 personnes. D'ailleurs, Sébastien, dans les innovations, a cité la Ronk Xerox, vous savez, qui permet donc de photocopier les dessins sur les feuilles de rhodoïde transparentes. C'était une innovation, mais une innovation vers le bas. C'est-à-dire que c'était pour faire une économie, parce qu'avant, les personnages étaient tracés à la plume en couleur, ça prenait beaucoup de temps, donc ça coûtait très cher, et le fait de simplement photocopier les dessins permettait de gagner beaucoup d'argent, puisqu'on supprimait à peu près 200-300 personnes qui traçaient à la main ces cellulos. Voilà, donc c'était une source d'économie. Et là, c'est une innovation vers le bas, comme on dit.
Voilà, une innovation vers le bas, une source d'économie. l'économie. On a fait donc cette passerelle de cette grève de 2023 à cette grève de 1941. Si on s'amuse aussi à faire des comparaisons par rapport à l'image de Walt Disney, je peux vous citer justement un sondage qui a été réalisé par Axios Harris aux États-Unis. Walt Disney était autrefois considéré comme une marque très appréciée outre-Atlantique. Elle était même dans le top 5 des marques les plus appréciées. Et aujourd'hui, elle ferait partie des marques les plus détestées par les Américains. Sébastien Durand, en tant qu'amoureux de la marque, quelle est votre réaction ?
Je pense que les difficultés, comme les grèves, comme ce qui vient de se passer, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'à chaque fois, ça a donné lieu à des changements qui ont été positifs sur long terme sur le groupe. Pierre vient de dire que ça a été un changement vers le bas, le Xerox. Moi, je suis en désaccord. Ça a permis de faire Les Cent Dalmatiens, qui n'est pas un film qui tire vers le bas. Ça a eu comme conséquence la suppression du département de l'ancrage et du gouachage. Ça, c'est vrai. Donc, ça a supprimé des emplois. Mais en transférant les dessins des artistes, on a pu avoir un nouveau style. Les dessins animés Disney anciens sont devenus plus modernes avec Les Cent Dalmatiens, Le Livre de la Jungle. C'est vraiment des dessins animés où on ne peut pas dire que ça tire vers le bas et ce sont des œuvres d'art en soi. La grande grève de 1941, elle pouvait tout à fait être justifiée parce que les animateurs étaient mal payés. Mmh. On sortait de la Grande Dépression et donc on profitait de ça pour ne pas bien les payer. Ça, c'est vrai. Donc là, on peut tout à fait comprendre les raisons qu'ils faisaient. Le résultat de ça, après que la grève soit terminée, c'est quoi? Disney s'est tourné aussi vers d'autres choses. Il commence à faire des films en prise de vue réelle suite à ça. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des tremblements importants, et là, je ne parle pas du coût humain que ça peut avoir, je ne m'exprime pas sur ce qui se passe en ce moment à Hollywood, mais c'est aussi la possibilité pour Disney d'aller vers de nouvelles choses et qui ne sont pas forcément moindres. Encore une fois, en tout cas dans l'animation, je pense que les changements technologiques qui se sont faits à chaque fois pour le positif. Donc, derrière, il y a des...
Pour le positif, peut-être dans les créations innovantes, oui. Parce qu'on sait très bien comment vit une entreprise. Il y a des crises, il y a des nouvelles technologies qui ont des conséquences. Et puis ensuite, elles sont réutilisées, elles sont réemployées et elles créent finalement des choses qui peuvent être inattendues. Ce qui est moins inattendu à cette heure de l'émission, c'est l'arrivée de Marcus Dubourg-Ménard. Bonsoir Marcus, bienvenue dans notre studio.
Bonsoir François.
Pour votre chronique, vous allez nous parler de ses fans, puisqu'on est en pleine thématique sur l'attachement à la marque. Alors là, ce n'est pas aux marques, mais c'est aux séries, des fans qui se mobilisent pour éviter que les séries meurent justement dans le streaming.
Nous avons tous fait le deuil de séries TV annulées. Dans les années 2000, la liste était déjà longue. J'ai une pensée émue pour Dark Angel, annulée en plein suspense en fin de saison, j'y pense encore. On peut ajouter Firefly, John Doe, Dollhouse, Calix Y, Véronica Mars, Rome, Stargate Universe ou encore les 4400. Mais aujourd'hui encore, il est courant que les saisons se terminent sur une histoire pas tout à fait bouclée. Mais faute d'audience, eh bien tout s'arrête. Il faut alors dire adieu à des personnages qu'on a aimés. Sauf eh bien que les fans ne disent pas toujours leur dernier mot. Dans les années 2000, on pouvait envoyer des milliers de lettres au studio pour protester. Et parfois, ça fonctionnait. La célèbre Roswell a eu une saison finale grâce à ça. Mais en 2023, il y a un phénomène qui est exacerbé par des plateformes que vous connaissez sûrement. Ce sont les réseaux sociaux.
Ah oui, c'est ça, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a des exemples récents, Marcus ?
Eh bien, l'année dernière, une série a connu un soulèvement sans précédent. Warrior Nun. Cette série, c'est l'histoire de Nun guerrière et d'une héroïne qui est choisie par un halo magique pour sauver le monde. J'ai résumé. Hein. Sur le papier, c'est très perché. Mais en tout cas, le cocktail fonctionne à merveille, sauf que Netflix l'a annulé au bout de 2 saisons, laissant un petit peu tout le monde sur sa faim. Vous n'avez pas idée de l'énergie mise par les fans pour réclamer son renouvellement. On compte 4 millions de tweets en quelques jours et ils n'ont pas cessé pendant des mois. S'ajoute une cagnotte. 47 000 dollars ont été rassemblés par les fans pour y acheter des billboards, c'est-à-dire des panneaux publicitaires, afin d'y mettre des affiches demandant la saison 3. Résultat, Netflix n'a pas renouvelé la série. Mais face à cette mobilisation, les créateurs ont pu trouver des moyens pour poursuivre l'aventure. Ils ont annoncé très récemment, un an après l'annulation, la production d'une trilogie de films.
Alors, comment réagissent les plateformes face à ces mouvements, Marcus ?
Alors, certes, Netflix a un petit peu le mauvais rôle dans l'histoire précédente, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est même pas si souvent le cas. Les plateformes de streaming ont souvent été des sauveuses face aux annulations des chaînes classiques. Souvent, le sauvetage a lieu d'ailleurs car la série est déjà diffusée à l'international sur la plateforme et y rencontre du succès. Netflix a produit ou favorisé les saisons finales de séries phénomènes pour lesquelles les fans avaient fait campagne. Lucifer, Designated Survivor, Manifest, You, The Killing à titre d'exemple. Prime Video aussi, quant à elle, a sauvé la série de SF The Expanse. Quant à Hulu et Disney+, eux, eh bien, ils ont récupéré la production de The Orville, alors que la Fox était à deux doigts d'annuler ce petit bijou. Je ne l'aurais jamais pardonné.
Eh ben non, vous n'allez jamais leur pardonner.
Vous voyez, les émotions, les séries, ça provoque des émotions.
Exactement.
Eh bien, dans la guerre du streaming, l'image compte presque autant que les chiffres. Alors, qui sera la meilleure sauveuse, François ?
Eh ben, c'est toute la question, Marcus, et on compte sur vous pour nous donner la réponse prochainement pour une nouvelle chronique. Merci d'avoir rappelé justement l'attachement des fans aux séries, fans que nous sommes tous. Lorsqu'on réfléchit peut-être aux problèmes aujourd'hui qui entourent Disney, on a évoqué les rachats de ces différents catalogues, Star Wars, Pixar, des marques en fait qui étaient existantes, qui ont existé en dehors de la galaxie de Disney. Est-ce qu'il n'y a pas ici finalement un problème d'identité ? D'ailleurs, je me disais, tiens, c'est quoi le dernier Disney qui est sorti à l'affiche ? Et puis j'avais du mal à le trouver, alors que bon, à mon époque, quand un Disney sortait, je l'identifiais très bien, tout le monde disait, tu as vu le dernier Disney. Est-ce que finalement, Pierre Lambert, on n'a pas une dissolution finalement de l'identité de Disney, peut-être face à cette profusion de marques, de licences ? On ne sait plus vraiment où Disney se place aujourd'hui.
C'est même un problème général, parce que on n'imagine pas, mais il y a plus d'un long métrage qui sort d'animation par semaine dans le monde. C'est-à-dire qu'on a à peu près, je crois qu'il y avait 150 longs-métrages qui ont été produits l'année dernière, donc c'est absolument considérable. Donc on n'a pas le temps de voir tous ces films. Et comme Disney, évidemment, produit beaucoup plus de films qu'avant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on attendait le nouveau Disney tous les ans. Aujourd'hui, il y en a 3-4 qui sortent par an, plus la prise de vue réelle, donc on est un peu perdu. Moi aussi, je suis incapable de vous dire quel est le dernier film, je le découvre avec toujours un petit peu de retard. Donc c'est vrai qu'il y a, vraiment beaucoup de films qui sont produits, beaucoup de séries, qui a 24 heures dans une journée, qu'on n'a pas le temps de tout regarder. Donc il y a un choix à faire, et en fin de compte, je pense que la solution, c'est d'aiguiller, de pouvoir guider les gens vers les choses intéressantes. C'est ça la difficulté. Il y a beaucoup de confusion parce qu'on a tellement on nous propose tellement de films que bon, ben voilà, c'est très compliqué de faire un choix. Et c'est souvent le marketing qui fait la différence d'ailleurs.
Et pas forcément pour le mieux. Capucine Cousin tout à l'heure parlait justement des problèmes qui avaient eu lieu entre Disney et le gouvernement de Floride, des problèmes donc politiques. On sait historiquement que Disney a plutôt été un partisan du parti conservateur aux États-Unis en étant un financier. Aujourd'hui, pour certains, il est perçu un petit peu trop comme woke. Est-ce que finalement, c'est pas ça, Disney aujourd'hui, trop woke pour les uns, pas assez conservateur pour les autres ? Quel est votre sentiment là-dessus, Sébastien Durand ?
Si on parle par exemple de La Petite Sirène, qui a fait beaucoup parler d'elle récemment en choisissant de faire une nouvelle version en prise de vue réelle avec une comédienne qui est afro-américaine, et ce qui a beaucoup fait. Moi, je me souviens que quand La Petite Sirène est sortie en 1989, il y avait des groupes conservateurs aussi à l'époque qui protestaient, alors qu'elle était blanche. C'était pas du tout pour ça qu'ils protestaient. C'était parce
nue.
Non plus. On ne voit
à
pas
moitié
non plus,
nue, je veux dire.
On ne voit pas non plus ses seins. Donc non, tout va bien. Mais en fait, dans le conte d'Andersen, elle meurt. Elle meurt pourquoi ? Parce qu'elle a désobéi à son père, parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il lui demandait. Or, La Petite Sirène de Walt Disney, elle désobéit à son père et elle en est récompensée. Et en fait, on s'aperçoit que déjà à l'époque, c'était en 1989 que le premier est sorti, ça avait provoqué un certain nombre de polémiques. Donc je pense qu'il y a toujours des gens qui vont trouver que La Petite Sirène, elle était trop désobéissante, trop rebelle. Maintenant, elle est trop noire. Derrière, ce qui compte, c'est quand on regarde 35 ans après, plus personne ne se souvient qu'on a dit ça de La Petite Sirène parce qu'on a grandi avec. Donc je pense qu'il n'y a pas... Est-ce que Disney était conservateur ? Il l'est devenu pendant sa vie, ça c'est une réalité. Il était démocrate quand il était plus jeune et il est devenu un des financiers, vous l'avez dit, du Parti Républicain. Ce qui aux États-Unis enfin, c'était pas Trump, le Parti Républicain,
oui,
à l'époque,
sûr.
Donc il faut aussi garder ça en tête. Aujourd'hui, l'entreprise a des contenus de diversité qui correspondent aussi, je crois, au marché mondial. Bon, voilà, il faut aussi arriver à ça. Quand des petites filles noires se retrouvent dans La Petite Sirène, c'est très bien, c'est nouveau. Et puis, je ne crois pas que ce soit pour autant trop woke.
Voilà, en tout cas, comme vous l'avez dit, vous lisez l'histoire à hauteur du siècle et on verra justement dans quelques années ce qui reste de ces polémiques. Et c'est bien ce siècle qu'on a essayé de retracer ce soir dans Le Meilleur des Mondes avec Capucine Cousin ainsi que Pierre Lambert. Merci à vous de m'avoir accompagné dans cette émission qui a été préparée par Juliette Deveau, comme chaque semaine, en compagnie de Béatrice Grégoire, réalisée par Perret Legras, qui s'est amusé à faire un petit medley de ses souvenirs et de son imaginaire Disney. Au son, c'était Élise Le, et à la réalisation vidéo, Jérémy Kaufmann. On se retrouve la semaine prochaine.